RCF. RCF, l'entretien de la semaine.
L'Arménie est un pays fascinant, fascinant par sa longue histoire, par la fierté de son peuple, d'une incroyable résilience, par la richesse de sa culture, son architecture, la beauté de ses croix sculptées. Et il est dommage que l'on ne parle de ce pays que pour évoquer son conflit concernant le Haut-Karabakh ou encore la mémoire du génocide de 1915. Michel Marian, bonjour.
Bonjour.
Pour élargir nos connaissances sur l'Arménie, vous publiez aux éditions Talendier « L'Arménie et les Arméniens en 100 questions ». Une présentation très riche et diverse de l'Arménie, de sa diaspora, de sa culture et bien sûr de son histoire. Alors, est-ce que le positionnement géographique de l'Arménie est une clé pour comprendre ce pays et son histoire?
Oui, bien sûr, le positionnement géographique est une clé importante, déterminante, dans la mesure où il indique ce qui va être le destin de l'Arménie depuis 2500 ans, c'est-à-dire une proximité avec des zones impériales qui sont autour, et d'habitude deux zones impériales, actuellement la Russie d'un côté et la Turquie de l'autre. Donc ce positionnement et en même temps l'élévation du relief. Vous savez peut-être qu'en Arménie, il y a à peu près la moitié des villes et villages qui sont au-dessus de 1000 mètres. Ce positionnement en relief permet évidemment de maintenir, disons la plupart du temps, non pas l'indépendance, mais de l'autonomie à cette région montagneuse, escarpée et lointaine des centres impériaux.
C'est ce qui explique cette histoire très mouvementée de l'Arménie entre occupation, indépendance.
Oui, oui, c'est ce qui explique cette histoire mouvementée. En même temps, il faut pour donner un peu plus de clarté peut-être, il faut imaginer que c'est pas qu'une question de relief. C'est pas qu'une question de les envahisseurs viennent de la mer, remontent et à la fin laissent un petit moignon de territoire.
Arménie, lieu de passage, quoi.
Voilà,
pour
autonome.
Les invasions.
Il y a, en tout cas, depuis 2500 ans, un balancement de l'Arménie entre des empires qui ont des colorations, des symboliques différentes. L'une des dates les plus importantes de l'identité arménienne, c'est la conversion au christianisme. Ça voulait dire un geste qui était un geste de s'extraire de la domination culturelle perse à l'époque, et d'aller vers l'ouest. Parce que à ce moment-là, il y avait une certitude que c'était de l'Occident en voie de christianisation, donc à la fois grec et chrétien, que c'était de l'Occident que venait le renouvellement des connaissances, l'approfondissement des choses.
Alors, je le disais, votre livre s'intitule « L'Arménie et les Arméniens en 100 questions ». Il y a effectivement 100 questions. C'est très pratique pour le journaliste que je suis, parce que vous m'avez donné les questions que j'ai envie de vous poser, notamment celle-ci. L'Arménie est-elle le tout premier État chrétien ?
Oui, on peut le dire. Ça n'est pas la première société chrétienne. Les premières sociétés chrétiennes, elles étaient à Antioche, elles étaient à Tars, enfin hors Judée, elles étaient là-bas. Mais c'est la première fois que une nation porte le souvenir d'un événement qui a été celui de la conversion de l'ensemble de la population à la suite d'épisodes légendaires très très spectaculaires. Le roi converti a décidé de convertir avec lui l'ensemble de la nation.
Et là, on est en combien, la date de conversion de l'Arménie?
Dans les légendes arméniennes, on dit 303, ce qui permet de marquer une précédence par rapport à l'Empire romain que Constantin a converti, ou en tout cas, Constantin s'est converti alors qu'il était empereur en 313. Les historiens d'aujourd'hui sont allés chercher les sources, ont croisé, et ont plutôt tendance à considérer que c'est un ex aequo, c'est-à-dire que les deux, l'Arménie et tout l'Empire romain, ont basculé en même temps vers le christianisme.
Michel Marian, j'aimerais qu'on parle quand même du rôle important de l'Église comme ferment de l'identité arménienne.
Il est très important. Il est très important parce que, donc, tout à l'heure, on a donné la date de 303 pour la conversion. Mais ensuite, ça n'a pas été simple de préserver cette foi chrétienne, notamment par rapport à la Perse, puisque le geste de conversion christianisme, c'était un geste d'éloignement par rapport à la Perse. Et il y a eu des invasions, plusieurs, qui ont abouti en 387 au partage et à la disparition en fait de l'Arménie comme État souverain. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 387 et aujourd'hui ? Presque pas d'épisode d'indépendance proprement dite, une autonomie relative, mais un sentiment très fort d'identité collective qui a été cultivé, j'allais dire au début inventé, peut-être pas inventé parce que les gens parlaient la même langue, malgré la diversité de ces vallées montagneuses, mais en tout cas l'Église a cultivé ça, et elle l'a cultivé en prenant une certaine distance avec les autres chrétiens, de façon à montrer aux Perses que le dialogue était possible à condition qu'on ne lui demande pas au peuple arménien de se trahir et d'abandonner sa foi chrétienne. Mais sinon, le dialogue était possible et la foi chrétienne ne signifiait pas automatiquement obéissance à Rome puis Byzance.
D'où le statut de l'Église apostolique arménienne, voilà, encore aujourd'hui, qui est distincte des autres communautés chrétiennes.
Absolument. Alors, du point de vue de l'ecclésiologie, l'Église arménienne ne dépend de personne. Au début, elle dépendait de l'Église grecque et en particulier donc de l'archevêché de César. Recevait l'onction les catholicos, c'est-à-dire les chefs de l'Église arménienne. Et puis même cela a disparu vers le VIe siècle et l'Église est devenue effectivement totalement indépendante, je disais, du point de vue de l'autorité. Maintenant, du point de vue du dogme, il y a eu à ce moment-là des relations très fortes qui se sont nouées avec les Coptes, les Syriaques et les Éthiopiens, tous autour d'une version, on peut dire, prudente, modérée du monophysisme.
RCF, l'entretien de la semaine.
Michel Marion, j'aimerais qu'on parle maintenant de cette période où l'Empire ottoman a fortement occupé l'Arménie. Les Arméniens ont-ils toujours souffert sous l'Empire ottoman ? C'est une des questions que vous posez dans votre livre.
Alors, et je réponds d'une certaine façon, non. C'est-à-dire que l'arrivée des Ottomans a été d'abord en tant que tel beaucoup moins dur que ne l'avait été l'arrivée des premiers Turcs en Anatolie au Xe siècle qui étaient les Seldjoukides qui eux avaient fait des massacres, avaient détruit beaucoup des structures existantes. Donc elle a été moins dure et surtout elle a redonné aux Arméniens dans un empire qui au début 16e, 17e était moderne et conquérant, elle a redonné aux Arméniens une vraie place. C'est-à-dire que les Ottomans avaient besoin, après avoir renversé l'Empire byzantin, d'un équilibre entre les Grecs et quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre a été l'Église arménienne qui avait réussi, je l'expliquais un peu tout à l'heure, à maintenir cette force d'indépendance qui a pu servir de contrepoids. Et le contrepoids, au début, était un contrepoids politique, et puis il est devenu rapidement un contrepoids commercial, économique, à l'intérieur d'un empire ottoman qui n'était plus en expansion politique, mais qui était encore en prospérité économique.
Alors Michel Marion, pourquoi ? Et alors là, je vous demande un effort terrible de résumer en quelques phrases, pourquoi ce génocide de 1915 ?
Alors, il y a malgré tout plusieurs raisons, vous l'accepterez.
Non, mais...
Alors, il y a d'abord une raison idéologico-politique. C'est-à-dire que, à partir du 19e siècle, l'ère est au nationalisme, avec un S. Et donc, la plupart des possessions chrétiennes européennes de l'Empire ottoman font les unes après les autres sécession. La Serbie, puis la Grèce, puis la Bulgarie, etc., la Roumanie, etc. Bon. Et donc, les idées nationales parcourt aussi les Arméniens. Et la lecture des événements amène les Ottomans à réfléchir à comment refaire une structure politique forte là où il y a le démantèlement. Et cette structure politique forte, finalement, les dirigeants ottomans choisissent qu'elle soit basée sur une idéologie ethnique exclusive pour l'Anatolie. C'est-à-dire, ils renoncent à tout ce qui est Balkans, Occident, etc. Mais en Anatolie. Donc, il n'y a plus de place. En réalité, c'est ça qui se passe. Il n'y a plus de place idéologiquement pour les Arméniens. Et c'est pour ça qu'un programme de véritable extermination et pas simplement d'intimidation,
la volonté,
etc.
La volonté de les faire disparaître.
Ça, c'est la raison politique. Il y a quand même une autre raison. L'autre raison, c'est que cet empire que j'ai présenté comme jusque-là faisant sa place aux Arméniens était quand même un système d'inégalité. C'est-à-dire que les non-musulmans n'avaient pas le droit de porter des armes, n'avaient pas le droit d'exercer certains métiers, etc., etc. Et quand du jour au lendemain, l'Empire ottoman a essayé de s'européaniser et de faire des citoyens égaux, il a créé des griefs de la jalousie chez ses sujets musulmans. Donc, la nécessité très froide géopolitique dont j'ai parlé tout à l'heure a trouvé un relais dans les passions, notamment cette passion de l'envie et de la jalousie des masses musulmanes.
Michel Marion, ce génocide a entraîné l'exode d'une partie du peuple arménien qui a pu survivre. Il y a une diaspora arménienne très importante. Pouvez-nous dire quel rôle elle joue aujourd'hui ?
Alors d'abord, oui, elle est très importante, c'est-à-dire qu'elle représente à peu près 2/3 de la population arménienne dans le monde. Donc le rapport avec les gens qui habitent dans le foyer national, vous voyez, il est du double. Elle est présente... Alors, en fait, il y a toujours eu une petite diaspora arménienne. Il y a eu d'abord les moines qui faisaient des pèlerinages à Jérusalem, ça c'était dans le haut Moyen-Âge. Il y a eu des Arméniens qui ont servi des califes fatimides en Égypte. Il y a eu des Arméniens qui ont développé le commerce sur le golfe Persique. Donc il y a eu toujours un foyer, disons, des foyers de colonies arméniennes. On appelait ça les colonies. Et puis, après 1915, après 1920, quand les Arméniens ont vu qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur maison en Turquie, alors là, oui, il y a eu ce qu'on appelle la grande diaspora, qui est allée surtout dans 3 directions, le Moyen-Orient et notamment le Liban, l'Europe occidentale et notamment la France, l'Amérique et notamment les États-Unis. Ça a été vraiment l'enracinement de la grande diaspora, et cette grande diaspora a été ensuite grossie d'autres déplacements, notamment les Arméniens des pays du Moyen-Orient où il n'y avait plus vraiment de place pour les chrétiens, et puis les déçus de l'indépendance, qui ont été aussi assez nombreux dans les années 90, début des années 2000.
Merci beaucoup, Michel Marion. Il y a encore une multitude de thèmes que l'on pourrait aborder, mais que l'on trouve dans votre livre « L'Arménie et les Arméniens en 100 questions, les clés d'une survie » et le sous-titre. Un livre que vous publiez aux éditions Talendier. Merci.
Merci.